Mystérie, éveillez votre curiosité.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode Mystérie. Merci à vous qui vous apprêtez à l'écouter. Je suis ravi de partager ces prochaines minutes en votre compagnie. Je m'appelle Stanislas Delorme, je suis consultant intuitif et je propose des consultations de voyance autour des arts divinatoires. Alors, Mystérie, c'est quoi exactement? C'est déjà un rendez-vous hebdomadaire, tous les dimanches à 18h. Retrouvez un nouveau podcast autour de la voyance, de l'astrologie, des arts divinatoires et des phénomènes paranormaux. En tant que praticien, je décrypte pour vous le monde ésotérique. Mystérie est disponible gratuitement à partir de nombreuses plateformes d'écoute comme par exemple Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer. N'hésitez pas à vous abonner à Mystérie sur l'une de ces plateformes afin de ne manquer aucun podcast. L'épisode de cette semaine porte sur une bâtisse bien singulière, située au cœur du quartier de Pigalle à Paris. Si on lui prête le nom de maison hantée de Frochot, c'est parce que des phénomènes assez mystérieux et parfois assez sinistres s'y sont produits. Dans le cadre d'une émission Web TV, j'ai également eu l'occasion de visiter les lieux et ce que j'ai vécu m'a fait froid dans le dos. Sans plus attendre, découvrons ensemble les secrets que renferme cette maison bien mystérieuse, au passé chargé d'histoire. C'est au quartier du Pigalle, à Paris, que l'adresse numéro 1 de l'avenue Frochot vit le jour en 1823. Après la construction de ce qui devait être un hôtel particulier, d'autres demeures furent érigées le long de la voie privée. L'avenue vit passer de nombreux noms prestigieux de l'histoire de France, tels que Toulouse-Lautrec, Gustave Moreau, Victor Hugo, Jean Renoir, Théophile Gautier ou encore Alexandre Dumas. Les demeures construites sur cette avenue sont toutes d'un style néo-païadien ou néo-renaissance. Seul qui trône à l'entrée est un style néo-gothique. Cette architecture particulière, au relief singulier et pointu, gardée par un haut portail noir et masquée par un arbre imposant, contribue à entretenir le mystère et le frisson autour de cette maison. L'auteur du roman feuilleton Rocambole, Pierre-Alexis de Ponson du Terrail, fut l'un des premiers propriétaires de cette sinistre bâtisse. Était-ce pour cela que les fantômes et autres esprits peuplent ces romans de fiction? Ou bien est-ce lui qui aurait fait entrer pour la première fois ces entités autour de cette demeure? Plus tard, un grand homme fit l'acquisition de la maison de Frochot, le compositeur Victor Massé. Il y mourut en 1884 et depuis ce temps, la maison est vécue comme un lieu hanté. Son décès est dû à la sclérose en plaques, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, qui affecte fortement la mobilité. Ce dernier serait donc décédé dans la souffrance et dans l'incapacité de se mouvoir, peut-être en raison d'une malédiction liée à la maison qu'il habitait. Dit comme ça, cet événement a l'air d'un simple fait divers. Mourir d'une grave maladie dans une maison ne signifie pas qu'elle soit hantée ou maudite, bien évidemment. Or, un autre fait troublant peut nous faire penser que la mort de Victor Massé n'était pas le fruit du hasard. En 1986, soit plus de 100 ans après le décès du compositeur, le critique de théâtre et littéraire Mathieu Gaillet sera emporté par la même maladie. Il avait acheté le numéro 1 de l'avenue Frochot en 1978. Au moment de l'achat, il avait déclaré dans la presse, je cite, « Acheter la maison Frochot, un peu l'impression de m'endetter pour acheter mon tombeau gothique ». L'écrivain avait-il senti qu'en signant l'acte de propriété, il signait également son arrêt de mort ? Certes, ces deux décès ne sont pas suffisants pour qualifier la maison de Frochot de maudite ou de hantée, mais attendez, car cette dernière n'a pas encore livré tous ses secrets. Avant que le critique Mathieu Gaillet ne soit propriétaire des lieux, c'est la chanteuse Sylvie Vartan qui avait acheté la maison. À l'époque, elle fut totalement séduite par le charme gothique de la bâtisse. Mais une fois à l'intérieur, le coup de foudre laissa place à l'angoisse. La chanteuse fut incapable de passer ne serait-ce qu'une nuit dans sa nouvelle demeure, tant elle trouvait l'ambiance dérangeante. Elle ne fut pas la seule à constater que l'ambiance était glaciale. L'histoire de la maison est ainsi marquée par de nombreux départs soudains propriétaires et par des actes bien plus sinistres, mais nous y reviendrons. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Giraud qui possède cette maison. Apparemment, il s'est parfaitement accommodé à sa nouvelle résidence et n'a jamais rien constaté d'étrange en son sein, du moins pour le moment. Il hérita la maison en 2010 de Patrick Debroux de Laurière. Ce dernier cherchait un hôtel particulier à Paris pour donner des concerts devant une centaine de personnes. Au départ, il fut dubitatif quant à l'achat de la maison de Frochot. Celle-ci était trop étroite pour ses grands projets. Il acheta finalement, juste avant qu'un certain Jack Nicholson ne le fasse. Oui, le célèbre acteur de Chinine aurait pu être l'un des propriétaires de la maison hantée de Pigalle. Comme s'il n'y avait pas assez de légendes urbaines à son sujet. Pour M. Patrick Debroux, ce fut sa dernière demeure. Comme le compositeur Victor Mallet et l'écrivain Mathieu Gallet avant lui, il y mourut emporté par la maladie en 2010. Avant l'achat, on raconte qu'une voisine, bien au courant des drames qui s'étaient produits entre ses murs, l'aurait mise en garde en ajoutant, je cite, « elle est habitée ». Avant d'emménager, M. Brou aurait donc pris l'initiative de faire exorciser les lieux. Est-ce fut efficace ? Rien n'est moins sûr. Si je vous ai parlé des départs précipités des propriétaires et du décès de ses occupants, je ne vous ai pas encore révélé pourquoi de nombreuses personnes considèrent la maison de Frochot comme hantée. Voici donc la triste histoire qui marqua à jamais les lieux.
Mystérie, éveillez votre curiosité.
Au début du XXe siècle, un terrible meurtre s'y produisit. Une femme de chambre fut retrouvée morte, étalée dans l'escalier de marbre, baignant dans une mare de sang. Elle n'avait pas chuté, puisqu'elle s'était cognée la tête. Elle avait été assassinée à l'aide d'un tisonnier. Une enquête fut ouverte, mais faute de coupable à désigner, elle fut classée sans suite. Quelques années plus tard, l'histoire se répéta. Les corps sans vie de deux nonnes furent retrouvés à l'étage. Elle aussi avait été sauvagement assassinée, mais cette fois-ci à l'aide d'un gourdin. Qu'avaient donc fait ces deux bonnes sœurs et cette malheureuse femme de chambre pour mériter un tel châtiment ? Les deux meurtres étaient-ils liés ? Et qui était à l'origine ? Tant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Depuis ce temps, la maison serait hantée par les esprits des victimes n'ayant jamais trouvé le chemin de l'au-delà. Plusieurs ouvriers du bâtiment rapportèrent avoir entendu des bruits de pas à l'étage alors qu'ils travaillaient au rez-de-chaussée. Pourtant, il n'y avait personne d'autre dans la maison à ce moment-là. L'un d'eux déclara également avoir senti un souffle glacial sur sa nuque alors même qu'il se trouvait dans l'escalier, pile là où la femme de chambre fut retrouvée morte. Son âme en détresse essayait-elle de communiquer avec l'ouvrier ? D'ailleurs, s'agissait-il réellement de l'esprit de la femme de chambre ? Pour la médium Geneviève Delpech, cela ne fait aucun doute. La veuve du célèbre Michel Delpech eut en effet l'occasion de visiter les lieux pour une émission de France Culture. Selon elle, l'âme de la servante serait toujours présente dans les murs de la maison. Il ne s'agirait pas d'un esprit malveillant, bien au contraire, ce serait une âme perdue dans l'incompréhension qui chercherait de l'aide pour atteindre le repos éternel. On peut imaginer qu'elle n'était pas préparée au destin funeste qui lui fut réservé, si bien qu'aujourd'hui son esprit réside toujours dans ces lieux incapables de rejoindre l'au-delà. Madame Delpech ne fut pas la seule à pénétrer au sein de l'étrange demeure. Philippe Badouin, philosophe et spécialiste du spiritisme, eut l'occasion de visiter plusieurs fois l'hôtel particulier. Il ressentit lui aussi l'atmosphère qui régnait. Il déclara, je cite, « Chaque fois, ce qui me surprend, malgré toutes les discussions que j'ai pu avoir avec Jean-Jacques Giraud, c'est ce silence, presque une échappe de plomb, qui s'abat sur vous quand vous pénétrez dans cette maison. » Tout cela est bien étrange, n'est-ce pas ? Un esprit très cartésien relèguerait toutes ces histoires au rang de la superstition et arguerait qu'il y a une explication logique à tous ces phénomènes. Peut-être est-ce le cas ? Or, pour avoir eu le privilège de visiter la maison de Frochot, je suis aujourd'hui persuadé que cette maison est bien et belle hantée. Ma découverte de la demeure se fit en compagnie d'un second médium et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous furent vraiment plongés au cœur de l'étrange. À mon arrivée, je n'avais aucune idée de l'endroit où l'équipe m'avait emmené. C'était la première fois que je visitais la célèbre maison hantée du quartier Pigalle. Il faut savoir que l'avenue de Frochot est privée et donc interdite au public. J'ai ainsi passé une soirée, une partie de la nuit dans ce lieu. Je fus profondément marqué par ce que j'observa. Comme de nombreuses autres personnes avant moi, j'entendis des bruits de pas résonner à l'étage. Or, le phénomène le plus surprenant que je vis fut le déplacement inexpliqué de certains meubles. Nous avions placé des repères pour indiquer leurs emplacements. Quand nous sommes revenus pour jeter un œil, des fauteuils avaient bougé sans que personne ne les déplace. Entrer dans cette maison fut une expérience inédite, avec frisson garanti.
Mystérie. Éveillez votre curiosité.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour un nouvel épisode Mystérie. D'ici là, prenez soin de vous.